Bienvenue sur l'émission du Petit Quart, l'émission qui décortique les recettes du succès ou les recettes d'un phénomène musical. Aujourd'hui, pour mener la danse, je me présente moi-même, Gab, voilà, pour vous servir comme à chaque fois. En arrière-cuisine, celui qui est responsable, celui qui est responsable de toute la technique, Jay. Voilà.
Oui, bonjour, toujours le même.
Et puis nos deux invités très spéciaux, merci beaucoup d'être venus. Donc Rook.
Salut.
Salut. Rook, DJ, producteur, créateur de son propre collectif de dub sur Montréal, multicasquette. Et puis Pierre. Voilà. Pierre, je ne sais pas trop comment on peut te qualifier, expert, selecta, digger de vinyle, je ne sais pas trop quelle casquette, toi aussi multicasquette.
Un peu tout ça, ouais.
Donc deux grands experts de la dub, donc on va essayer de comprendre un peu ce que c'est. C'est d'autant plus touchant que cette semaine on a appris la mort de Naman. Peut-être que vous connaissez pas, mais c'est quand même un éminent chanteur de reggae et de dub français, connu aussi à l'international, qui a perdu son combat contre une tumeur cérébrale, qui avait je crois 34 ou 35 ans.
Ouais,
donc c'était plutôt triste. Donc voilà, je trouve que cette émission elle prend d'autant plus de sens, et puis on lui dédie un peu d'une part cette émission, voilà. On commence sur une note un peu négative, mais pas du tout. On va rebondir. Et puis du coup, je suis très contente de vous avoir. Merci d'être venu ce soir. Je commence par une question toute simple, toute bête. Comme ça, on est clair pour tout le reste de l'émission. Est-ce qu'on dit la dub ou est-ce qu'on dit le dub?
Ah, grande question.
Grande question.
qui fait beaucoup de débats. C'est sûr que moi, je dis le dub.
J'ai
toujours dit et entendu le dub, mais il y a beaucoup de personnes qui disent la dub. C'est un mot qui vient de l'anglais, comme le reggae. On dit le reggae, on dit pas la reggae. Donc, historiquement, j'ai toujours entendu le dub, mais c'est sûr que la question est pertinente.
Ça se vaut, c'est pertinent comme remarque, j'avoue. Mais je suis dans la même team que Pierre.
Ouais.
Le dub pour moi, mais je ne changerai pas.
J'ai remarqué que souvent, les personnes qui ont connu ça avant les années 2010, mettons, diraient plutôt le dub. Les personnes qui connaissent depuis moins longtemps diraient plutôt la dub. Mais c'est un débat qui a lieu beaucoup. C'est comme pain au chocolat ou chocolatine.
On n'aura jamais la réponse de ça. Mais je vais essayer de m'adapter, je vais essayer de dire le dub, parce que moi, je crois que je suis vraiment la team à tout féminiser. Donc, je vais essayer. Vous ne voulez pas si jamais je dis beaucoup la dub dans cette émission. Est-ce qu'on peut un peu, juste pour rappeler aux gens qui nous écoutent, qui ne savent pas du tout de quoi on parle, c'est quoi finalement le dub? Ça vient d'où? C'est quoi? Je ne sais pas si vous pouvez juste... Si vous avez une définition simple un peu pour les gens qui nous écoutent.
Ouais. Donc le dub vient de Jamaïque. Historiquement, ça c'est né dans la fin des années 60. Et en fait, c'est basé sur un concept de remixer, de retoucher, de remanier les sons entre eux. C'était des producteurs comme Lee Perry ou principalement King Tubby qui a un peu créé, démocratisé et produit énormément.
Accidentellement.
Au début, oui, c'est venu d'erreur, mais en gros, c'est le fait de manier les sons, de rajouter des effets sur différentes tranches de sons, par exemple juste sur la guitare ou sur certaines parties de la batterie, rajouter des échos, des delays, de la reverb, et de couper les pistes, de les remettre. Donc c'est vraiment... triturer le son, le travailler, qui a créé ce style musical. C'est parti à la base du reggae, évidemment. C'est des morceaux de reggae qui étaient enregistrés et donc produits sur des consoles. Et c'est sur ces mêmes consoles que les producteurs comme Scientist ou King Tubby, que je mentionnais, remaniaient les sons et rajoutaient des couches supplémentaires.
Oui, parce que c'est ce que tu disais, Rook, il n'y avait pas un truc comme quoi ils ont envoyé un jour une démo sans la voix, et c'est comme ça. C'est de ça dont est partie la petite légende, en fait. Ils avaient oublié de rajouter la voix, et du coup, c'est...
Et quand ils l'ont joué en sound system, ça a été vraiment un gros succès. Donc ça a continué, mais comme l'a si bien dit Pierre, pour résumer ça, moi, quand on me pose la question, j'aime bien dire qu'avant que ça devienne... Parce que maintenant, c'est carrément un style musical, c'est une technique.
Okay.
Ça vient vraiment des ingé-sons qui remixaient, parce que sur le vinyle, t'as besoin de l'autre face, et qui mettaient l'instrumental après, par la suite, en remixant... certains instruments, notamment en mettant en avant ce qu'on aime le plus, nous, dans cette musique-là, c'est la basse.
Okay.
Donc, ouais. On met de l'avant la basse, on met un peu de vocal qu'on fait baigner dans les effets, que ce soit du delay, de la reverb, et c'est un peu un remix de la tune qu'on fait sur l'autre face du vinyle.
D'accord.
Ce remix, un petit peu, a vraiment une énorme influence sur la musique en général. La musique électronique, tous les effets qui sont rajoutés dans la musique électronique viennent de ça. Le rap, le hip-hop vient du reggae aussi, et le fait de chanter, de rapper sur des versions instrumentales, ça a eu une influence vraiment majeure sur la musique en général, les effets qui ont été rajoutés et créés en Jamaïque. Qui est devenu le dub par la suite.
Et du coup, oui, c'est de ça. Et du coup, il y avait vraiment une grosse emphase aussi sur ce qu'on appelait des sound systems, qui sont devenus un peu de plus en plus gros. En gros, c'était des énormes caissons de basse. Mmh. Et peut-être pour les gens qui nous écoutent maintenant et qui vont au stéréo et qui écoutent les sons sur un système son void, ils se rendent pas compte que quand même, il y a 50 ans, les gens faisaient ça sur des toutes petites sur des toutes petites machines et sur des énormes caissons. Et effectivement, ce qui est assez poétique, je trouve, c'est de se dire qu'en fait, ces musiques-là, tu les écoutais pas forcément. Enfin, tu les écoutais aussi. Dans un casque ou chez toi ou sur des vinyles, mais ça se vivait aussi, tu vois, c'était aussi très corporel, parce que finalement t'as des basses tellement puissantes que finalement t'as aussi toute une partie qui se passe au niveau de ton corps, quoi, au niveau de ton ressenti et des vibrations.
Ouais, c'est très important ce que tu mentionnes, le sound system a toujours été de pair, main dans la main avec le reggae. En gros, les producteurs de reggae avaient aussi leur sound system, et ils testaient le jour même où ils produisaient des morceaux, le soir même, ils testaient en danse, en session, sound system, leurs morceaux. Et c'est les morceaux qui ont été faits, justement, comme tu le mentionnais, avec une basse profonde, avec la recherche d'un ressenti physique. Les morceaux ont été composés dans cette optique d'être joué sur des sound systems, et les sound systems ont été créés pour jouer cette musique. Donc c'est vraiment une cohésion qui ça marche ensemble, en fait. Il n'y a jamais eu de... On ne pouvait pas imaginer le reggae tel qu'il est aujourd'hui sans les sound systems et inversement.
Et je pense que ça avait aussi un aspect un peu revendicatif. Je pense qu'on a toujours fait ça, des espèces de compétitions entre entre chanteurs, entre rappeurs, parce que finalement, à l'instar du hip-hop ou à l'instar du rap ou à l'instar de musique comme ça, le reggae et le dub étaient aussi très revendicatifs pour dénoncer quelque chose. Et puis tu avais aussi cet aspect, ben on s'affronte. Enfin, chaque sound system s'affronte, les crews font des espèces de compétitions.
Et puis même au-delà, quand même, il y a quelque chose de très important dans le sound system, c'était vraiment en marge, c'est-à-dire que c'était, on prenait possession de la rue, on prend possession de son espace de vie, et on fait passer des informations que des gens n'avaient pas forcément accès non plus, que ça soit politique, les informations, ce genre de choses, et c'est ça qui est fantastique dans ce style-là, de prendre vraiment possession de son espace de vie, puis de ramener toute la vie aussi dans ces speakers-là.
Ah, parce que la Jamaïque, dans les années 70, t'avais pas le droit, c'était pas comme maintenant, nous, ils avaient pas un service public et une radio publique comme on peut avoir maintenant.
Il y avait des radios, mais ils diffusaient vraiment des choses plus de la musique américaine, etc.
Ouais.
Donc, c'était le moyen d'expression un petit peu du peuple, en fait.
Ouais, effectivement, ça permettait de dénoncer des choses et de faire passer des messages à la population Ce qui est,
et après, la musique reggae en tant que telle, quand le reggae est arrivé, puis qu'ils ont les bands qui étaient là, qui jouaient dans les grands hôtels, qui reprenaient que des classiques américains, au bout d'un moment, quand ces talentueux musiciens ont commencé à faire naître le style de Lille, ont pu aussi faire passer cette musique-là via les sound system. Ça, c'est vraiment très important. C'est intimement lié, en fait.
Mm-hmm. Ouais. Et du coup, comment ça s'est exporté un petit peu après, parce qu'on en entend beaucoup. T'as forcément un lien avec l'exportation de la diaspora caribéenne, etc. Mais le dub s'est pas mal exporté au Canada, mais c'est surtout au UK, non? Ouais. C'est surtout en Angleterre, ouais, c'est que ça s'est un peu développé par la suite, non?
Oui, il y a eu des énormes flux migratoires de Jamaïque, comme tu dis, vers le Canada, mais aussi beaucoup en Angleterre. Et c'est là que cette culture du sound system et du dub a pris un peu une autre direction que celle qui est en place sur l'île, en Jamaïque. Et ça a évolué vers quelque chose de peut-être plus électronique. Et c'est un peu, il y a comme deux cultures qui se sont séparées un petit peu à ce moment-là. En Europe, donc principalement, c'est né en Angleterre, avec des sound systems comme Coxon, Jashaka, qui ont vraiment perduré plus la tradition originelle du sound system. Où, par exemple, pour donner un exemple, il y avait à l'époque en Jamaïque, c'était une seule platine. On jouait pas avec deux platines et on mixait pas les morceaux l'un après l'autre en les mélangeant, comme dans beaucoup de styles musicaux. Mais c'était vraiment une platine. Et il y avait une personne qui venait faire le MC, Master of Ceremony, ou on l'appelle aussi DJ parfois, qui venait chanter par-dessus les morceaux. C'est d'ailleurs de ça qu'est venu le rap à New York. Mais en Angleterre, ils ont vraiment conservé un petit peu ce côté de sound system plus traditionnel. Et ça a évolué encore de nos jours. Il y a beaucoup de musique qui est jouée dans les sound systems, donc en Angleterre, mais ça c'est évidemment exporté en France et dans les pays, en Belgique beaucoup, en Hollande, etc., dans les pays autour de l'Angleterre, par des gens qui allaient voir ce qui se passait en Angleterre et qui ont ramené cette culture chez eux. Donc c'est pour ça que ce côté sound system, dub, est très présent en Europe. Il l'est moins en Jamaïque. Ils ont plus évolué vers la musique New Roots, le dancehall.
Okay.
Et c'est comme deux cultures différentes. Si on va maintenant en Jamaïque, par exemple, on entendrait peu.
Okay.
On n'entendrait pas les mêmes choses que ce qu'on entend et ce qu'on apprécie en Europe. Il y a beaucoup plus, c'est ça, de dancehall et de New Roots qui joue et qui est populaire en Jamaïque. Mais c'est pas la même... C'est deux évolutions un peu séparées du reggae, du sound system.
Ouais.
Ok. Et a suivi ça aussi l'avancée technologique, parce que entre la Jamaïque et l'Angleterre, bon, il y avait des envois de vinyle, mais autant sur la musique, il y avait des envois aussi de matériel, mais c'était un peu compliqué parce que ça bougeait beaucoup politiquement en Jamaïque. Donc il y a du monde qui s'est mis carrément à construire du matériel sur place. Et c'est là que vraiment aussi la musique électronique a embarqué derrière. Notamment, on parle souvent qu'il y a une pièce maîtresse dans le sound system qui est un préamp. Tu parlais de King Tubby tout à l'heure, qui est notamment connu et qui est pas mal connu par les gens de l'électronique parce que c'est quelqu'un qui était vraiment un technicien.
Okay.
C'est lui qui a construit le premier préamp, ce genre de choses. Et en Angleterre, ça a été beaucoup repris. Ça, les gens construisaient leur propre système parce que c'était pas toujours évident de faire venir les affaires. Et puis, il y avait quand même sur place du monde qui avait les connaissances techniques pour faire ça. Et de la même manière, à côté de ça, plutôt que faire venir des vinyles de Jamaïque, ils ont commencé à faire leur production avec les influences d'Angleterre. On sait que les mouvements sociaux qu'il y a eu aussi en Angleterre, c'est qu'ils sont rapprochés des mouvements punk ou ce genre de choses. Donc c'est magnifique parce que tout est lié, en fait.
Oui, parce qu'on rappelle qu'il y a eu une époque où la mondialisation n'existe pas et que c'était un peu moins facile de diguer des sons et d'avoir accès.
Les gens se débrouillaient par eux-mêmes, monter leur boîte, monter leur speaker, monter leur préamp.
C'est assez fou.
Comme ils continuent de se faire maintenant, bon, à différentes échelles, mais on avait vraiment en Angleterre une avancée technologique là-dessus.
Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est assez... Encore une fois, c'est assez beau de se dire que ces sound systems-là, comme tu disais tantôt, En fait, finalement, on se concentrait vraiment sur l'émotion à faire passer à ton public et ce que tu voulais véhiculer plus que tes skills finalement, ouais, et que t'as besoin que d'une platine pour faire ça. Genre, c'est juste on se concentre sur la sélection,
sur la musique,
ouais, et on t'envoie plein d'émotions dans la tête, et puis finalement les skills et tout, c'est pas le plus important. Donc c'est encore un autre mindset qui est assez intéressant, ouais. Mm-hmm. Effectivement. Mais y a aussi un, c'est parce que moi j'ai essayé de réviser ma leçon quand même, comme je savais que vous veniez à la maison, j'allais dire que vous veniez à la je me sens comme chez moi, que vous veniez à la radio. Effectivement, il y a tout un moi qui écoutais un tout petit peu de reggae et de dub, il y a quand même et je comprenais pas très bien des fois les mots qu'ils utilisaient. En fait, tu as tout un champ lexical qui est propre, et tu l'as un peu mentionné avant, c'est que du coup tu as le selecta qui va je sais pas si tu peux, moi
ouais.
Tu vois le selecta, le DJ, le toaster, le tu vois
le MC, l'opérateur,
le MC, le et puis le redeem aussi. Enfin voilà, pour les gens qui nous écoutent, t'as tout un champ lexical que t'entends dans des chansons, et tu sais pas trop ce que c'est. Donc
on peut en expliquer d'autres.
Ouais, 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 carrément. Mais parce que il y a plein de sons où tu vas entendre les gens dire ça et tu te dis mais attends. Enfin moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, ouais. Ouais.
Mais pour reprendre le dernier, redeem, ça vient de l'anglais rhythm, et en gros c'est l'erreur dont parlait tout à l'heure. Rook, où ils ont oublié de mettre les paroles sur un vinyle qu'ils ont pressé, et donc c'était juste un morceau instrumental, et c'est devenu par la suite, on a appelé ça un redeem. C'est juste une version instrumentale sur lequel en live ou pas, mais certains chanteurs peuvent venir rajouter des voix sur un morceau qui est instrumental. Et au niveau des différents rôles qui peuvent exister dans un collectif ou sur un sound system, donc il y a une personne qu'on appelle l'opérateur. L'opérateur, c'est celui qui va manier le préamp dont parlait Rook, qui est une grosse machine qui peut s'apparenter à ce qu'on connaît dans les sets de DJ classiques, les mixeurs. Mais ça amène toute une autre dimension où on peut utiliser cette machine pour être vraiment un instrument. On peut jouer avec les fréquences, rajouter des effets, faire des transitions, rajouter des brancher des sirènes dessus, etc. Donc c'est comme un instrument de musique un peu, et c'est comme le cerveau du sound system. C'est la machine qui permet d'avoir un son unique et de le dubber en live, de le triturer aussi, et d'avoir une couleur et un son qu'on souhaite. Donc ça, ce serait pour l'opérateur. Sinon, il y a, comme je disais, donc le MC, c'est le nom le plus utilisé. Des fois, on dit aussi DJ, mais écrit DEEJAY, qui serait la personne qui vient chanter, animer, présenter. Et historiquement, c'était aussi pendant... la transition, comme il n'y avait qu'une platine, qu'une table tournante, le temps de passer à un autre vinyle, il fallait une personne qui meuble un petit peu l'espace, et donc qui vient tchatcher.
Un chauffeur de salle.
Exactement. un des noms, c'est MC, donc ouais. Master of Ceremonies, donc c'est vraiment un animateur un petit peu qui est... Donc ça fait aussi partie inhérente du sound system. Et évidemment, le selecta, qui est celui qui va sélectionner, qui va choisir les morceaux et qui va jouer des vinyles souvent.
Ok, ouais, et bah du coup, ouais, merci pour cette piqûre de rappel, parce que moi je me suis dit, oh mais tiens, ça m'a vraiment j'ai trouvé ça hyper intéressant.
Je viens de découvrir que MC voulait dire Master of Ceremony.
Non mais on apprend plein de trucs dans cette émission, c'est fou. Ouais.
Je me suis jamais posé la question de pourquoi plus. Du MC, mais
qu'est-ce
d'accord.
Que ça veut dire, ouais. Bah, c'est DJ, beau. C'est disque jockey aussi.
Ouais, bon.
Non mais du coup, tous les MC, genre voilà, MC Hammer.
Mais oui, MC, c'est d'accord.
Qui n'a rien à voir avec le reggae, le pauvre.
Mais ça, si, il y a des influences, justement. Ouais. Le rap vient vraiment de cette culture aussi, donc
ouais,
le nom vient de là. Je me demande s'il n'était pas jamaïcain, lui.
Il était...
Ah ouais, ok. Ouais. Ah bah alors tu vois, non, non, je...
Il y a des liens. Il y a des liens.
Ok. Et du coup, est-ce que... Comment c'est venu un petit peu, c'est quoi la place aujourd'hui de, pour s'intéresser un petit peu de, dans le pays dans lequel on est, c'est quoi aujourd'hui un peu la place du dub, même avant, la place du dub au Canada, particulièrement au Québec, à Montréal, comment un peu c'est venu tout ça, je sais pas, c'est...
En fait, c'est intéressant, peut-être que tu peux faire la transition là-dessus, c'est qu'il y a deux jours, il y avait justement à l'ONF une série documentaire qui parlait un peu des artistes issus de l'immigration jamaïcaine.
Alors l'ONF, c'est... Parce que pour moi, c'est l'Office National des Forêts, mais on n'est pas...
C'est du film.
Je crois un film, ouais, c'est ça, c'est la même chose avec film.
Je crois, tu vois, cet acronyme-là. Donc ouais, je suis allé voir un film qui était justement... parler de ce sujet-là, c'était l'immigration jamaïcaine et donc le reggae qui a été produit et créé au Canada. Il faut savoir que le Canada a une importance majeure et vraiment grosse dans le domaine du reggae. Dans les années 70-80, c'était le deuxième pays le plus gros producteur de reggae. C'est souvent méconnu, on pense toujours que c'est Jamaïque et Angleterre, mais le Canada a sa place dans sur le podium, et il y a eu énormément de productions faites au Canada, donc surtout principalement à Toronto, parce que c'est là que le plus gros de l'immigration jamaïcaine est allé.
C'est très multiculturel comme ville.
Ouais, tout à fait. Ouais. Et il y a une énorme communauté jamaïcaine là-bas. Il y a une rue qui s'appelle Reggae Lane, Little Jamaica, qui est vraiment un quartier dans le nord de Toronto. Donc ça a une grosse importance. Mais c'était principalement par rapport à ce que je disais tout à l'heure de peut-être de différentes écoles, de différents chemins qu'aurait pris le reggae, le dub et le sound system. C'est plus l'école et le un petit peu la même chose que ce qu'il y avait en Jamaïque. Et puis selon moi, à Montréal, ça historiquement c'est un peu similaire aussi. Où c'était donc, cette culture qui vient de Jamaïque et qui a été amenée ici, c'est ça qu'il y avait principalement sur place, donc à Montréal et à Toronto. Et depuis quelques années, donc depuis 8 ans, moi je fais partie d'un collectif qui s'appelle Worldwide Sound System.
Okay.
Et on a essayé de justement ramener un petit peu cet autre côté du reggae, du dub et du sound system, qui est plus l'école européenne, si on veut, inspirée par des personnes que je mentionnais comme Jashaka, d'essayer de plus jouer, plus de roots et plus de dub moderne. Versus des soirées plus peut-être jamaïcaines qui seraient... D'accord. Plus dans le New Roots ou le Dancehall ou les hits populaires en Jamaïque.
Ok, New Roots, c'est ce que tu appelles New Roots, c'est ce qu'on ferait un peu plus maintenant.
New Roots, c'est des artistes un petit peu comme, je sais pas, Capleton, Sizzla, c'est des choses qui le sont un peu des années 90.
Ok.
Donc en gros, pour faire un bref historique des différents genres, ça a commencé vraiment par le rhythm and blues, le R&B, que vous connaissez peut-être sous le nom R&B. Donc c'était vraiment à l'époque ça qui s'écoutait en Jamaïque. C'est devenu ensuite le ska. Ils ont commencé par le ska. Le ska qui était inspiré du rhythm and blues, mais qui était vraiment endémique de l'île de Jamaïque. C'était ça venait de là-bas, ça a été créé en Jamaïque. Et donc... Par la suite, le ska a été ralenti, donc ça a donné le rocksteady, donc il y a un autre genre. Puis est arrivé plus de notions religieuses, et c'est là que le reggae a été créé. Donc ça part du rocksteady, mais c'est la limite est fine entre ces deux styles, mais chronologiquement c'est ça qui s'est passé. Et donc le reggae a par la suite évolué donc, en dancehall dans les années 80. Et
ce qui est très différent en plus de ce qu'on peut écouter maintenant en dancehall ou enfin ce que tu pourrais ce qui serait qualifié de dancehall genre Papa Happy etc, ce que tu pourrais écouter dans les clubs maintenant. C'est vrai que le dancehall dont tu fais mention, c'est très différent en fait.
Un peu de tous ces styles. Ouais. C'est comme l'afrobeat par exemple. Quand on parle de l'afrobeat de nos jours, ça n'a rien à voir avec l'afrobeat de Fela des années 70.
Exactement.
Le R&B, c'est le meilleur exemple. Quand on parle de R&B maintenant, c'est pas du tout le rhythm and blues de l'époque.
Oui.
Mais tout a évolué, le dancehall, l'early dancehall et le dancehall de l'époque, des années 80, n'a rien à voir avec ce qu'on écoute maintenant. Même le reggae, il y en a beaucoup qui cherchent à retrouver l'ancien son, mais tous les styles évoluent. Le nom reste, mais...
à d'autres styles
tout
aussi.
À fait, tout à fait.
Si on parle de reggaeton, on peut parler même de ce qui se passe en ce moment dans les Antilles avec le chata, ce genre de choses. On a vraiment, c'est du dancehall.
Mm-hmm. Bah, même le dub, hein, parce que tu pourrais dire que le dub qui s'est exporté en Angleterre, c'est devenu après de la bass house, de la dubstep.
La grime, tout ça vient de là. Donc.
Mm-hmm. C'est assez fou de se dire ça. Mais effectivement, moi, je voulais parler du... En faisant mes recherches, j'ai été touchée de... effectivement, comme tu disais, qu'il y a eu que le Canada a été quand même très influent dans ce style musical, dans le dub. Il y a une énorme immigration caribéenne qui est partie notamment à Toronto. Et Toronto, c'est le bassin de la dub poetry. Donc c'est beaucoup d'artistes qui récitaient des poèmes sur des sons dub et qui en fait venaient improviser leurs poèmes, un peu c'est à l'instar du rap et à l'instar de plein de choses en fait, c'était vraiment des musiques qui revendiquaient et des musiques qui dénonçaient des sujets compliqués à l'époque, parce qu'il faut savoir que c'était quand même les années 70 et que les années 70 au Canada et en Amérique du Nord c'était pas tout rose, surtout pour la communauté noire qui émigrait dans ces pays-là, et effectivement il y avait la dub poetry où en fait les musiciens jouaient. Et les poètes venaient réciter des poèmes effectivement très forts. Et moi, j'ai découvert une poétesse, Liliane Allen, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est arrivée en 69 à Toronto, qui est née dans les années 50 en Jamaïque et qui est arrivée en 69 à Toronto et qui est effectivement, qui a émigré pour des raisons économiques, qui a fait un peu les sales boulots et qui est devenue un peu la figure emblématique de la contestation des violences policières, de la contestation de la condition de la communauté noire dans ces années-là. Et donc, elle avait sorti un album en 86 qui s'appelait Revolutionary Tea Party. Mm-hmm. Donc, en plus, avec un nom à consonance très forte. Désolée pour mon accent abominable. Et en fait, elle avait écrit une chanson qu'on va pouvoir écouter juste après mes explications. Mais voilà, elle a écrit en fait une chanson de cet album qui s'appelle Rhythm and Hard Times. Encore une fois, sorry pour l'accent. Mais dans cette chanson, en fait, elle fait référence. En 79, il y a eu, le 26 août 79, il y a eu un jeune homme noir, Albert Johnson, qui a été tué par des policiers à son domicile. Et en fait, il y a eu une vague de protestations et de manifestations énormes. C'était la première fois qu'à Toronto, la communauté noire se soulevait à ce point-là parce que ils étaient. Et en plus, les violences policières, on en parle encore aujourd'hui en Amérique du Nord, même en Europe. Enfin, je veux dire, c'est encore une grosse problématique. Et là, il y a eu tellement de pression et tellement de manifestations qu'en fait le Grand Toronto et l'Ontario ont fait appel à une enquête externe pour enquêter sur ces policiers. Et donc c'est à la suite de ça qu'ils ont créé l'unité des enquêtes spéciales, donc les enquêteurs qui enquêtent sur les affaires policières. Donc c'est assez ça a marqué quand même un gros tournant. Et donc, bien sûr, les policiers ont été acquittés, malheureusement, mais voilà, ça a quand même marqué un gros tournant. Et donc, voilà, pour marquer, pour lui rendre un petit hommage et puis pour marquer une courte pause, on va pouvoir écouter cette chanson et puis qui dénonce un peu les abus de l'époque et puis qui illustre bien ce que c'est que la dub poetry. Voilà.
Ready, man. country, Hardy. But this your country, Hardy. And where we come here for? We come here for the better.
Merci Jay pour ce magnifique fondu. C'était... je vous ai dit, hein, sans lui, rien ne serait possible. J'adore. Moi, j'adore parce que je trouve que... C'est... Moi, j'ai vraiment l'impression... pour moi, c'est vraiment la musique des dimanches matins. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu sais, je me vois vraiment bien écouter ça un matin en me réveillant, tranquille. Voilà. Même si les paroles sont un peu dures. Non, c'est très cool. Du coup, on pourrait peut-être passer à, un peu plus à... À vous personnellement, Rook, toi t'es DJ, producteur, fondateur de ton propre collectif. Est-ce que tu veux nous évoquer un petit peu ton parcours? Parce que toi maintenant, tu composes de la dub comme on l'a composé avant, mais avec des machines finalement. Comment est-ce qu'on compose de la dub maintenant? Et puis, c'est quoi un peu la place de la scène dub à Montréal? Comment toi, tu te situes par rapport à ça?
Déjà, même au niveau même de la production dub, il y a deux écoles. Il y a ce qu'on appelle l'analogique, les gens qui veulent vraiment reproduire les années. Parce qu'on parle dub, mais avant de parler dub, on parle de reggae, parce que c'est le fondement. Sans reggae, il n'y a pas de dub. Donc je vais parler du reggae dans le sens où il y a du monde qui s'intéresse au reggae des années 70 à 80, comme en parlait tout à l'heure Pierre, avec leur technologie de l'époque. Donc on retrouve des délais, les effets qu'on rajoute derrière qui sont vraiment propres à ces machines-là sur des consoles de l'époque. Moi, je peux pas faire ça d'un point de vue monétaire déjà, parce que c'est un certain budget tout ouais. ça, et puis c'est des gens qui ont vraiment donné toute leur vie à ça. Aller chercher cette console, cet effet, cette tranche d'EQ, ce compresseur. C'est vraiment des gens qui ont vraiment donné toute leur vie à ça. C'est vrai que ce côté-là, en 2025, on a la chance d'avoir des logiciels qui les reproduisent quand même. On s'entend que ça ne sera jamais la même chose que l'analogique. Mais ce qu'on appelle le digital, et c'est vraiment ce que je fais maintenant, nous permet à moi, artiste avec peu de moyens, de quand même... s'exprimer, parce que c'est ça le but en fait.
Ouais. Enfin,
personnellement, on parle de musique, donc tant que c'est un moyen.
Ce qui n'en est pas moins louable. Hein. Moi, je suis de l'école que il faut. C'est cool aussi de vivre avec son temps. Et maintenant que la technologie te met à disposition des choses, c'est carrément cool de les utiliser. Hein.
À fond. Et puis, juste avec des petits contrôleurs MIDI, comme je vais vous faire la démonstration tantôt, on arrive quand même à reproduire des choses qui ne sont pas analogiques. Là, on s'entend. Parce qu'il y a quand même des débats là-dedans qui sont, et puis c'est intéressant, est-ce que c'est intéressant de rester sur des fondations, sur les trucs fondamentaux, ou est-ce que c'est intéressant d'aller, par exemple, en 2025, laisser parler l'intelligence artificielle sur de la composition de morceaux? C'est juste pour te montrer un peu le gap qu'on peut avoir. Donc, tout est louable, l'important c'est de créer, et puis de bien créer, de faire passer les bons messages. Moi, à mon niveau, c'est ça qui m'intéresse. Justement, j'avais envie de donner accès à ce que je produisais, à ce que je chantais. Donc, j'avais pas forcément la place. Et puis, comme le dub est vraiment pas représenté ici, ça va faire quand même un paquet d'années avec Pierre qu'on organise des soirées. moi plus en, en tant que chanteur et puis lui plus en tant que dans la sélection. Donc on a commencé où il n'y avait pas grand monde et puis maintenant, bah, surtout avec le collectif de Pierre et le Sound System, il y a beaucoup plus de gens qui se sont intéressés à ça. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré pour dire bah, maintenant, j'aimerais aussi que les productions locales et ce que je chante dans mes chansons aient aussi un speaker. Donc, c'est pour ça que j'ai créé les permanences.
Ok.
Pour venir vraiment proposer mes compositions, aussi liées, même si je suis digital, avant mon cheminement à Montréal a commencé avec un bench qui a 10 musiciens, où on était vraiment reggae, fusion, je mélange ça avec la pop, le jazz. Et j'essaie tranquillement, pas vite aussi, de ramener les musiciens dans le dub. Donc il y a toujours un trompettiste, un saxophoniste. Dans les sessions en dub, j'ai Bastress qui est une bassiste qui m'accompagne.
Oui, ça c'est très intéressant. Je trouve que tu mélanges analogie et puis finalement musicien. C'est très intéressant.
Comme disait Pierre tout à l'heure, tu sais, le côté rhythm, la version, quand un chanteur vient chanter, prend le micro et chante là, sur les speakers versus une version déjà préenregistrée, c'est pas la même chose. Mm. Et quand le chanteur vient s'égosiller sur le rhythm versus quelque chose qui a déjà été préenregistré, c'est pas du tout la même, c'est pas la même vibe. Les gens le ressentent tout de suite. C'est quelqu'un, tu peux passer des disques toute la soirée, mais quand quelqu'un va prendre le micro, tu vois les gens qui, tu le sens tout de suite. Et de la même manière, quand Carminda, la bassiste du projet, vient avec sa bass, il se passe quelque chose de fou. Parce que l'instrument est réel, il n'est pas passé par des traitements, c'est pas du digital, c'est l'instrument qui est branché directement dans la console et qui sort sur des gros speakers qui sont juste dédiés à la basse.
Ouais.
Tout de suite, il se passe quelque chose de... Tout prend son sens, en fait.
Okay.
Donc, c'est pour ça que j'ai créé ces soirées-là et puis aussi laisser une place à tous les gens qui font des sélections dans la ville. Pour les faire connaître, pour que les sonos aussi, parce qu'on parlait du Worldwide tantôt, il y a d'autres sonos, il y a le Fox Eye, Engine 69, à Sutton, il y a le Bric-à-Brac, pour que ces gens-là aussi puissent faire des événements.
Ah oui, c'est là où tu partais quand tu faisais tes soirées à Sutton, c'est d'accord, ok, ouais.
Tout à fait, mais bien avant ça, avec Pierre, nous, on a vraiment accroché avec ça, c'était à Québec, avec le CHX Sound System.
Ok.
On parle de ça il y a quelques années maintenant, et puis on allait une fois par mois... À Québec, on montait tous dans une voiture pour aller au sous-sol du cercle pour assister à une session.
Ok.
Donc c'est là que tout a pris forme, en fait.
Ok.
Après, originellement, moi j'ai grandi en Afrique et vraiment ma culture reggae est beaucoup plus liée à l'Afrique que la Jamaïque.
Ok. Où ça en Afrique ?
Au Sénégal, à Dakar.
Ok, d'accord.
Et notamment un concert qui a complètement perturbé, chamboulé ma vie, un concert d'Alpha Blondie où j'avais 13 ans au stade Léopold Sédar Senghor. Et ça a complètement chamboulé toute ma vie quand j'ai vu toute cette énergie, les musiciens justement, tout ce que ça faisait. Et puis par la suite, moi je suis originaire du sud-ouest de la France. On a un gros festival qui s'appelle le Reggae Sans Ska. Et toutes les cassettes que j'achetais dans la rue étaient les invités de ce gros festival reggae.
Okay, ouais.
Qui est quand même assez réputé maintenant. Donc j'avais Dakar quand je vivais à l'année. Puis je rentrais tous les étés au sud-ouest, dans le sud-ouest où il y avait ce festival. Donc le reggae m'a vraiment animé grâce à ces deux Dakar et aussi Sud-Ouest. Donc
je plus sois pour le reggae sans ska.
Oui.
Oui, j'ai
Tu ouais. l'as fait aussi ?
Oui, oui.
Ah oui.
Et le Garance Reggae Festival, je sais pas si t'as connu.
Oui, tout à fait, le Garance qui est lui un peu plus généraliste aussi, où on a eu le hip-hop qui avait une grosse Cypress Hill, ce genre de groupes qui sont venus. Mais après, Pierre a fait beaucoup plus de festivals pour moi en Europe parce que l'Europe est quand même très avec vraiment cette identité reggae. Qu'on parle de l'Espagne, vraiment, on parle de l'Italie, bon, on parle bien sûr de l'Angleterre, n'en parlons pas, mais le reggae est très présent en Europe et peut-être moins ici, et c'est pour ça qu'aussi on a démarré ces projets là pour aussi permettre à cette musique là d'exister ici à Montréal. Et c'est pour ça aussi, pour en finir avec ça, que la permanence, je l'ai créée parce que je voulais qu'il y ait quelque chose d'un peu plus dub, électronique,
ouais.
qui ait une petite place ici à Montréal.
Ouais, et du coup, c'est tous les mois que tu organises ça ?
Non. On va dire par an. Là, on a fêté les 2 ans en janvier.
Ok.
Donc, c'est de l'ordre de 3-4 événements par année.
Ouais, c'est pas mal déjà, c'est du boulot.
C'est déjà du boulot, en plus des concerts qu'on fait. Ouais. Moi, je tourne tout l'été après dans le reste du Québec. C'est ça. Et puis après, il y a les amis qui ont aussi leurs projets, donc... on essaie de soutenir les amis là-dedans. On est vraiment une petite communauté qui, on essaie de garder ça, de serrer les coudes les uns les autres.
Oui, parce que qu'est-ce qui fait qu'en Europe, finalement, alors forcément, il y a eu une émigration importante en Europe aussi, mais avec une communauté caribéenne et jamaïcaine aussi grande, qu'est-ce qui fait que finalement ce style reste très niché? Parce que ce qui est drôle pour toi, Rook, par exemple, c'est que tu as tourné dans tous les festivals cet été, mais que des festivals électro, et ce qui finalement est génial parce que ça fit hyper bien,
Et la communauté électro accueille toujours le dub parce que, Comme il expliquait tantôt, le dub est à l'origine de toutes ces musiques-là.
Et ce que tu fais en journée, ça fit hyper bien. C'est génial quand tu fais un festival et que t'as
une... Merci la communauté électro parce que grâce
à
eux, ça me permet de faire vivre ma musique et de vivre moi aussi en tant que musicien.
Mais qu'est-ce qui fait, d'après vous, ce serait quoi l'explication pour que ça reste aussi niché? Je sais qu'il y avait les soirées Montréal Dub System, mais qui, depuis 2014, mais qui finalement sont plus trop actifs en ce moment. Ils passaient beaucoup au Bar La Shop. Mais finalement, il n'y a plus trop ça maintenant. Est-ce que c'est quoi? C'est l'électro qui a pris une trop grosse place? Ou est-ce que... comment vous expliqueriez ça?
Il y a plein de choses derrière. Je pense que mon interprétation personnelle, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, la différence entre les différents mouvements, où la communauté jamaïcaine... connaître peut-être moins le sound system tel que nous Européens on le connaît, donc c'est pas vraiment le même au niveau des artistes et des chanteurs. Peut-être ce serait les mêmes invités, mais au niveau de la culture vraiment du sound system, ce serait comme deux cultures séparées. Et je pense que à Montréal, à Toronto, en Jamaïque actuellement, c'est plus une culture du sound system tel que je le décrivais tout à l'heure, de dancehall et de new roots, versus la culture en Europe où c'est plus inspiré de l'Angleterre avec plus de dub et plus de roots en fait.
Okay.
Donc je pense que c'est ça qui se passe et qui s'est passé historiquement à Montréal, où justement il y avait beaucoup plus cette culture jamaïcaine. Mais comme le disait Rook, depuis quelques années, il y a des collectifs, il y a plusieurs événements et personnes qui se bougent pour que cette autre culture du sound system puisse avoir puisse exister à Montréal. Et,
okay.
Donc ça reste encore quelque chose qui est, comme tu le dis, très, très niché, très marginal. Après, le reggae a toujours été un petit peu marginal, même en Angleterre, même à Toronto. Enfin, ça a toujours été quelque chose qui est plus, qui est pas mis sur le devant de. Ça passe pas beaucoup dans les grandes radios. Mmh. C'est pas
du tout,
voire pas du tout.
Oui, c'est pas mainstream.
Non, c'est
même ce qui est mainstream dans le reggae, c'est pas si mainstream que ça.
Ben c'est ça, mais c'est en même temps, c'est lié à. à la nature même du reggae, ce qui est une musique qui est contestataire, anti-système, un peu anti-capitaliste, etc. Ça va pas toujours très bien avec les grandes radios, ce qui est le plus diffusé, malheureusement.
Ouais. Et du coup, pour rebondir un peu sur toi, Pierre, c'est quoi pour en savoir un petit peu plus sur ton parcours, l'histoire de ton collectif, parce que tu as dit que tu avais un collectif, du coup, toi, sur Montréal. Voilà, si tu peux nous en dire un petit peu plus.
Donc c'est ça, comme disait Rook, moi je viens de France. Je suis arrivé ici à Montréal il y a 12 ans. Et en France, j'étais vraiment habitué à écumer tous les concerts, festivals de France, mais un peu partout en Europe. Je me déplaçais beaucoup tous les week-ends pour aller à droite, à gauche, parce que j'ai toujours été vraiment passionné de cette culture, justement, du sound system et du reggae en général. Et donc je suis arrivé ici à Montréal il y a 12 ans, et en arrivant, j'ai pas vraiment trouvé cette scène, cette chose qui me passionnait déjà, enfin me passionnait à l'époque, me passionne toujours aujourd'hui. Donc je suis arrivé, j'ai commencé par faire de la radio. C'était la radio étudiante dans mon université à l'ETS, dans mon école à l'ETS.
Pierre à la radio.
Ouais.
C'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Ouais, c'est... Ah, c'est fou.
Ouais, la première fois qu'on s'est...
La boucle est bouclée.
Voilà. Et donc, j'ai commencé par faire de la radio et petit à petit, j'ai été approché et invité par un collectif de l'époque qui s'appelait Laïta, qui composait notamment de Seed Organization, qui est un producteur montréalais de dub. C'était mes premières soirées à Montréal. En parallèle de ça, j'organisais aussi des événements avec mon ami Nicolas Alfadé, qui d'ailleurs a eu une émission sur Choc FM.
Ah ouais?
Ouais. Donc, c'était, je suis déjà venu dans ses locaux pour l'accompagner. On te salue d'ailleurs si tu nous écoutes. on organisait déjà des événements dans le but justement de mettre en valeur cette culture et cette scène, cette musique-là. Et les années ont passé et j'ai rencontré Guillaume Stepin, qui avait déjà, lui, un collectif en France qui s'appelait Stepin Forward. Et on a décidé ensemble de créer, de construire un sound system. Donc ça a commencé en 2017. Le projet a commencé en 2017 et les premiers caissons ont mis presque une année à être fabriqués.
Parce que vous les fabriquez vous-même.
Ouais, c'est ça.
Ah, c'est fou, ça.
C'est moi qui les ai construits pour la première partie. Donc, en 2018, on a fait notre première soirée avec un sound system qui était à l'époque sur trois voix, donc avec les basses, les médiums et les aigus. Donc voilà, c'était avec un collectif qui s'appelle Worldwide Sound System. On a commencé à faire des soirées, à organiser des événements. Et puis plus le temps a passé, plus on a mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion à essayer de ramener des artistes de cette culture européenne. Donc des invités anglais comme Channel One, Sound System, comme Iration Stepa, des artistes également français qui sont les plus gros actuellement dans le domaine du dub et du sound system, qui sont les plus gros artistes en Angleterre ou en France. Des artistes comme Blackboard Jungle de Rouen, Salomon Heritage, etc. Donc aussi King Shiloh qui est venu de Hollande. On a fait venir aussi Wedding Dub, c'est ça, de Lille. Donc on a essayé de ramener les artistes qui nous semblaient les plus importants, les plus influents dans cette scène en Europe à Montréal. Et donc on a développé le projet en suivant un petit peu cette ligne directrice d'essayer de développer le sound system et le dub à Montréal.
Sacré travail, hein, parce que si vous faites venir des artistes comme ça de l'international, et puis en plus en parallèle, parce que finalement, encore une fois, je trouve ça assez beau ce que tu dis, parce que un système son, ça se construit sur plusieurs années avec des copains, avec toute une communauté. C'est en constante progression. C'est assez beau le message qu'il y a derrière.
D'ailleurs, en parlant de copains, il y a aussi un troisième membre qui a rejoint le collectif Worldwide.
Okay.
Il y a un petit peu plus de 3 ans, qui s'appelle Léo, qui nous a rejoint aussi pour nous aider dans cette démarche et dans cette passion commune qu'on partage tous.
Ok, cool. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut vous c'est quoi un peu pour vous les projets déjà, est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux? Oui, on partagera vos réseaux, j'imagine que oui. Mm-hmm. Même pour ton collectif, ouais, vous avez j'imagine des pages sur lesquelles on peut vous suivre, donc on partagera ça. Et puis c'est quoi un peu pour vous les projets un peu de cette année? Qu'est-ce qui va se passer dans vos vies?
Ben, moi, permanence non-stop, ça c'est sûr. La prochaine permanence, c'est le 15 mars.
Super.
À la Soterenea. Donc, la Soterenea, c'est une salle qui est le sous-sol de la Sala Rosa.
Ok, je connais pas.
Saint-Laurent.
D'accord.
Donc c'est ça, on a commencé les soirées là-bas maintenant, parce qu'avant, on évolue tranquillement, les gens suivent, donc on avait commencé ça dans un bar, où justement, au lieu de faire venir toutes les sonos complètes, on faisait venir la moitié d'une sono. Et puis, de fil en aiguille, ça a eu son petit succès. Donc maintenant, on essaie de faire la même chose dans une vraie salle de concert, ouais, avec des sonos complètes, tranquillement. Donc c'est ça, on fait venir la sono du Bric-à-Brac Sound System de Sutton,
ouais,
au complet, avec Marquis Lyrical, avec aussi Selectress Sunshine, qui est une selecta de Toronto.
Okay.
Donc le but, c'est de créer vraiment, le but de la permanence, c'est que ça soit vraiment quelque chose de local. On veut vraiment mettre de l'avant tous les protagonistes du reggae dub canadien. Montréalais au tout début, mais tranquillement, pas vite, ça va s'en venir canadien. C'est la porte est ouverte. Du reste, s'il y a des gens qui écoutent et qui se reconnaissent là-dedans, n'hésitez pas à communiquer avec nous avec grand plaisir. Donc c'est ça, c'est une communauté qui se veut de partage, d'amour.
C'est altruiste, ouais, c'est
exactement,
c'est cool.
C'est que ça, parce que sans ça, on ferait rien. Et puis le but, c'est vraiment la passion avant tout, et puis d'évoluer là-dedans, parce qu'à chaque session, quand tu dois pousser toutes ces boîtes-là dans un camion, chaque session, ce qu'on appelle session, donc c'est des soirées,
okay,
elles deviennent uniques, parce que on a développé tellement d'efforts pour faire ces soirées, qu'on s'en rappelle à vie. Et puis moi, ma carrière musicale actuellement est intimement liée justement au collectif de Pierre, Léo et Guillaume, parce qu'ils m'ont beaucoup nourri de tous les vinyles qui passaient dans les sessions, pour dire, moi au sein de ce crew là je suis un peu rajouté derrière en périphérie, parce que je suis comme boxman, j'essaie de les aider à chaque fois à porter les boîtes, parce que ça prend des bras. Donc mon but, c'était vraiment d'apporter de l'amour à ce collectif-là en les aidant à chaque fois, et puis en plus d'assister aux sessions où le but, justement, pourquoi tu disais tout à l'heure, c'est peut-être moins connu, c'est qu'on vient chercher la rareté. Faut vraiment venir se déplacer dans les soirées pour savoir ce que c'est un sound system, pour vraiment avoir le feeling des boîtes, et en plus découvrir des sons que généralement, pour
ma
part...
Chasamer.
Tu peux pas les chasamer. Et en plus de ça, il y a la volonté de chaque système,
ouais,
d'avoir leur propre son avec leur propre nom de son système qui sont dits dans les chansons. Donc c'est des chansons uniques,
ouais,
à chaque fois. C'est des moments uniques avec pour moi, des gens uniques aussi, parce que chaque personne, que ce soit Pierre, Léo, Guillaume ou d'autres Selecta, ont tous leur touche à chaque fois. Et chaque personne... Même si on est dans la même communauté, on aime les mêmes sons, chaque personne va venir jouer des disques complètement différents. C'est rare que deux Selecta jouent vraiment les mêmes choses. Le fondement est la même, mais chaque personne va y aller avec
ses subtilités. Oui, à son empreinte, ça dépend de la manière dont tu perçois le public
et
aussi.
C'est ça, moi, qui m'a toujours fasciné dans le collectif comme le Worldwide. Il y a une dimension aussi autre que le reggae, ils vont chercher ailleurs, beaucoup l'Afrique, ce genre de choses.
Ouais.
Et ça, pour un artiste comme moi qui est compositeur, producteur, c'est extrêmement nourrissant. Et moi, ça a toujours été mon leitmotiv là-dedans. Et je les remercierai jamais assez, ces trois personnes-là.
Oui, prenez-le aussi comme community manager, parce qu'il vous vend bien. Hein.
Ah ouais, il est déjà engagé.
Et donc toi, Pierre, un peu, c'est quoi les projets pour cette année?
L'année 2025 va être une année de transition pour
okay,
le Worldwide Sound System, donc plus d'infos à venir.
Plus d'infos à venir, ok, mais super cool, voilà. Super cool. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Encore une fois, au petit quart, on apprend toujours énormément de choses. Moi, j'ai été ravie de faire cette émission avec vous, ravie que vous ayez pu vous libérer un dimanche. Nous, on espère que vous avez passé une bonne fin de week-end en notre compagnie, qu'on a su vous faire un peu oublier le blues du dimanche soir pour ceux qui retournent à l'école ou qui retournent au travail demain. Ceux de la restauration qui ont fait la fête tout le week-end et qui ne travaillent pas demain, on espère que vous avez apprécié aussi. Mais voilà, en tout cas...
Une pensée à tout le monde, quoi.
Oui, une pensée à tout le monde. Vraiment, on vous embrasse.
On ratisse large.
Et voilà. Donc, on va passer peut-être au mix. En plus, ils nous ont fait l'honneur de venir avec une sélection de vinyles bien pointue et puis avec toutes les machines de Rook. Donc voilà, il est temps pour moi de vous souhaiter une très très belle soirée, de vous laisser en musique et puis de vous dire à dans deux semaines Et voilà, prenez soin de vous et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.
Ah là, merci.